Bonjour, émission Araga, dirigée par Kamaridir, ma chronique.
السلام عليكم راكم مع جماعه الحراقه هنا في اذاعه قلاع
ليميشن حراقه لا فوا دي سان فوا دي جيشوي دو لا في elle fait appel à la rue qui la interpelle
et vous allez vous régaler avec vos micros trottoirs
et
moulla lazim n'oubliez pas vous êtes avec les haraga de marseille bakhir الحراقه
l'émission phare de radio galère tous les jeudis
de 16 à 18 heures من الساعه الرابعه حتى الساعه السادسه
Azul Fellaoun, salam alaikum, bonjour tout le monde. Nous sommes très heureux d'être avec vous en ce jeudi du mois de mai 2025, bien sûr, et nous fêtons ensemble ou célébrons la journée du 8 mai 1945 ici à Marseille avec vous.
كيفاش ننسى بلاد الخير كيفاش يصبر قلبي تهنى كيفاش صوري جايز فقير وطني غني ما يفنى كيفاش ننسى بلاد الخير كيفاش يصبر قلبي تهنى كيفاش صوري جايز فقير وطني غني ما يفنى
commémoration du massacre du 8 mai 45 en Algérie. Cette histoire demeure très peu enseignée. Il y a 80 ans, le 8 mai 1945, le jour même où la France fêtait la victoire sur les nazis, des manifestations indépendantistes éclataient en Algérie. Elles furent massivement et violemment réprimées par l'armée française. Plusieurs massacres ont eu lieu à Sétif, Guelma et Kharata, faisant des dizaines de milliers de morts. À l'occasion de la commémoration de cette répression sanglante, un collectif de chercheurs et d'historiens a lancé un appel à la reconnaissance de ces crimes. Selon les historiens de ce collectif, la France reste très en retard par rapport à la reconnaissance officielle des massacres commis en Algérie. Comparativement aux autres puissances coloniales, la Grande-Bretagne a reconnu ses crimes au Kenya au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. L'Allemagne l'a fait pour la Namibie, tout comme la Belgique, la Hollande, les États-Unis sous différentes formes, ainsi que le Canada. Il y a eu certes des reconnaissances partielles avant ces historiens, comme pour l'assassinat des indépendantistes Ali Boumendjel, l'Arbi Ben Mehdi Allahyarhamo, ou Maurice Audin. Mais il n'y a pas eu de reconnaissance pleine, entière, circonstanciée des crimes commis pendant cette période en Algérie. Pour l'historien Nils Andersson, le peuple français n'est pas prêt. Je crois qu'aujourd'hui, la situation est plus difficile qu'elle ne l'était en 62. Au moment de l'indépendance, affirme l'expert, l'indépendance de l'Algérie reste un traumatisme dans l'opinion publique française. On constate qu'il y a des ressentiments anti-algériens en France, par pays colonisateur. Je pense que le rôle des responsables politiques est non pas de faire de la politique politicienne en exacerbant les sentiments identitaires et religieux, mais d'avoir le courage de reconnaître le fait colonial. Et cela, ce n'est nullement un acte de contrition ou de repentance, c'est simplement un acte moral de vérité. Mais il faut que les politiques aient le courage de le réaliser. Une discrimination mémorielle pour les héritiers de l'immigration coloniale. Selon toujours les universitaires, la bataille pour la reconnaissance des massacres en Algérie demeure cependant nécessaire pour les relations paisibles franco-algériennes, mais surtout pour une réconciliation des mémoires. Assurément, une reconnaissance par les plus hautes autorités de l'État des massacres commis le 8 mai 45 contribuerait à améliorer les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie. Mais il y a un autre volet. Il y a en France un nombre très important d'héritiers de l'immigration coloniale et postcoloniale qui sont français, mais qui ont des origines particulières qui ont une histoire familiale parfois particulière en raison des conséquences de ces massacres. Ils sont depuis maintenant très longtemps confrontés à ce refus d'une reconnaissance pleine et entière. Cette histoire demeure très peu enseignée dans les collèges, les lycées et les universités. Encore une fois, c'est perçu comme une discrimination mémorielle et commémorielle pour les héritiers de l'immigration coloniale, post-coloniale. Cet autre mumé et la répression massive des indépendantistes ont longtemps été occultés en France. Les massacres ont profondément marqué le peuple algérien et ont, selon les historiens, amorcé la guerre d'indépendance en Algérie.
صبر قلبي ذهننا كيف السوري جايز فقير وطني غني ما يفدى
Et oui, c'était Dahman Al-Harrachi sur les ondes Radio Gala au 88.40 dans l'émission Haraga, animée par, bien sûr, par Idir. Donc, une petite, comment dirais-je, une petite virée en Normandie, hein. Donc, je viens d'arriver de Normandie. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ai passé le 1er mai dans un petit village, enfin, un grand village qui s'appelle Avranches, hein. Avranches, là où il y a eu le débarquement, ça tombe bien. Donc j'ai décidé de passer le 1er mai, et voilà, le 1er, c'est là-bas, les 1er mai se suivent, mais ne se ressemblent pas. Si l'année dernière aussi, la pluie avait perturbé la manifestation, le beau soleil de cette année a permis aux syndicalistes de se rassembler dans des conditions bien agréables après la traditionnelle manifestation. Dans des conditions bien plus agréables. Après la traditionnelle manifestation, un barbecue a été organisé favorisant les échanges entre les militants. Donc, les revendications des syndicats, c'était bien sûr toujours le jeudi 1er mai, devant l'hôtel de ville d'Avranches, près de 150 personnes se sont rassemblées. Il y avait 150 personnes, voilà. Ils étaient présentes pour écouter les discours des différents intervenants que vous allez écouter tout à l'heure. Je vais le passer. Intervenants. Les points abordés étaient nombreux. Revalorisation des salaires, des pensions de retraite, des minima sociaux, des bourses d'études et du point d'indice dans la fonction publique. Donc, on va vous faire passer une chanson et après, et on revient tout à l'heure.
Pas d'amour ici, c'est guerre à plein régime. Régie par les lois, les victimes, qu'importe les origines. J'ai dû rater un truc. Peace, love et having fun sont devenus bitch, drogue et heavy guns. Rares sont ceux qui ont des roses à offrir. Bienvenue à la table garnie, au fichier, aux frites. Où le sens de la vie s'est égaré dans la brume. Où les petits ne savent pas poser un nom sur un légume. Au cœur du pire ennui, j'ai posé ma valise. Élaboré mon plan, attendant que Dieu me la balise. Depuis dans le frais où les basses me tolèrent, j'écris un peu tous les jours les raisons de ma colère. Quand on se tue à la tâche, pour rien dans la récolte. Normal que les vents portent la révolte. Que la terre où l'on marche est labourée par des molaires. Comprenez-vous au moins les raisons de la colère? J'ai toujours le feu depuis le jour où j'ai croisé sa route. J'ai appris à voir dans le noir et oxyde mes doutes. On a voulu me partir mais j'ai ferré au piège à loup. Et la passion m'a enlevé, élevé comme une louve. Grain de sel dans l'océan, j'ai pas voulu me dissoudre. J'ai remonté le courant jusqu'à ce qu'une autre porte s'ouvre. Il me fallait... Semer les graines les plus dures, les mots les plus ciselés. Sans but, isolés, déçus. L'abandon les recrute et le vide les attend pour les faire rissoler. Je suis désolé, c'est pas ma faute si les esprits les plus durs commencent à vaciller sous le poids de leur bracelet. Du coup le monde s'arrête là au coin de la rue. Tellement sûr d'échouer qu'au final il ne sait même plus du tout. Et ça tombe dans le facile, ça grossit.
Et mai 2025, présentez-vous.
Alors moi je me présente, Pierre-Yves Aussan, je suis militant CGT depuis de nombreuses années et je suis délégué syndical central au sein de mon entreprise. Et le 1er mai, il est extrêmement important cette année parce que il est ce 1er mai qui a été acquis de haute lutte et la lutte a commencé aux États-Unis. On a fait un petit historique lors des prises de parole. Il est mis à mal par le gouvernement Bérou qui souhaite assouplir les règles du 1er mai. Or, c'est un acquis pour nous social et les acquis sociaux vaut bien une baguette fraîche. Hein. Je reprends les arguments fallacieux de M. Bérou qui souhaite que les Français puissent pouvoir acheter leur baguette fraîche le 1er mai. On marche sur la tête, encore une fois. Ce sont des arguments qui ne tiennent pas. Et c'est dans un contexte général que tout le monde connaît, donc avec des tensions sociales extrêmement importantes au sein des entreprises. Et donc, nous continuons la lutte coûte que coûte.
Alors tout à l'heure, j'ai entendu que vous avez cité la Palestine, Gaza, et comment ça se passe, la position de la CGT, la position des travailleurs?
Alors la CGT a une position très claire, c'est qu'on dénonce effectivement la politique menée par Netanyahou. Monsieur Netanyahou est un représentant de l'extrême droite israélienne, et en Israël, les partis politiques de gauche et les syndicats sont muselés actuellement parce qu'ils sont en état de guerre et nous on dénonce tout ça. Et Netanyahou qui est accompagné par ses sbires, c'est-à-dire Donald Trump et compagnie. Donc c'est un... Et derrière ça, il faut quand même dire le plus important, c'est la population gazaouite qui souffre et qui meurt. On rappelle 50 000 morts. Pour des... En fait, le seul raison à cela, c'est pour asseoir l'assise politique de Netanyahou.
Alors, la position aussi de Trump, vous avez cité Trump quand même à la une. Et comment ça se passe? Comment le syndicat ici, les ouvriers, comment ils trouvent ce...
Alors, nous,
ça touche l'économie française quand même.
Nous, on savait depuis longtemps que Trump était un triste sire. Lui, c'est le représentant des ultra-riches, très clairement. Même la population américaine, il s'en fiche. Lui, ce qu'il veut, c'est pouvoir accroître les bénéfices et les profits des grandes, grandes entreprises. D'ailleurs, il s'en cache pas. C'est un personnage qui est totalement décomplexé, qui est entouré par Elon Musk, on sait, hein, qui prône l'eugénisme. Social, qui prône l'eugénisme humain, c'est-à-dire l'homme modifié. Enfin, c'est surréaliste. Nous, on a beaucoup peur parce que on a quand même l'impression qu'en Europe, on ne se rend pas compte des conséquences que la politique de Trump va pouvoir impacter l'Europe, et vous avez raison, il y a d'ores et déjà beaucoup de salariés européens qui vont être impactés, et il va y avoir aussi une invasion des produits fabriqués en Asie qui vont déferler sur l'Europe, et d'un point de vue écologie, ça pose aussi beaucoup de soucis. Je rappelle que la CGT est aussi militant en écologie, c'est une part de notre ADN.
Vous avez préparé, vous préparez des grèves pour le 5 ou le 6, je crois.
Oui.
Mais pourquoi vous avez choisi cette date?
Et alors, souvent, les dates sont choisies par les confédérations. Et en général, ce sont des dates qui sont choisies par une intersyndicale confédérale. Donc nous, voilà, on suit le mouvement. Et pourquoi? Bah, tout simplement pour se battre au niveau social. On l'a redit dans nos prises de parole. Il va y avoir un rabotage des services publics, notamment du secteur hospitalier, qui est inadmissible. Voilà. Donc on rappelle tous les combats qu'on mène depuis 10 ans, depuis l'avènement de Monsieur Macron. Hein, au pouvoir, et ça sera les retraites, les rémunérations, la revalorisation du SMIC, parce que on fait des économies sur le dos des salariés, 4,5 milliards qui ont été décrétés par Monsieur Bayrou, mais à côté de ça, les grandes entreprises du CAC 40 bénéficient non seulement de l'argent public, 58 milliards, mais accroissent leur profit. Donc, encore une fois, donc on rappelle nos luttes au travers de ces journées de lutte intersyndicale.
Est-ce que c'est déjà fait? Est-ce que vous allez les faire ou les pourparlers sont... Vous avez arrangé
alors,
le...
Alors, l'organisation de ces journées, les dates sont programmées. Après, charge au niveau local, dans toutes les villes, dans les unions locales et les unions départementaux de chaque organe syndical de s'organiser. Pour que ces journées soient un succès.
Les pourparlers sont où?
Ah ben, ils sont au point mort.
Ah ouais.
Les négociations sont en plein mort. En fait, ce sont des négociations factices, puisque M. Bayrou, lui, il a une posture rigide qui empêche toute négociation. À l'instar de ce qui s'est passé pour les retraites, où il décide d'un conclave, et puis derrière, il dit de toute façon, on ne reviendra pas sur l'année de départ de 64 ans. Donc les dés sont pipés dès le départ. Donc ce ne sont pas de réelles négociations. C'est simplement une très illusoire. Voilà.
Où est-ce qu'il mène Bayrou ce pays-là? Parce que un jour il dit comme ça, l'autre jour il tire pour lui.
Comme vous le dites, c'est incompréhensible. Il n'y a pas de sa politique n'a pas de cohésion. Hein. Lui, ce qu'il veut, c'est il est un expert comptable de la France. Il veut revenir à un déficit public à 5,3%, il me semble, et il veut faire payer les salariés, les travailleurs et les travailleuses. C'est tout ce qui l'intéresse. Le reste, tout ce qui est volet social, tout ce qui est le volet économique, peu importe. C'est pas son rayon. Lui, ce qu'il veut, c'est réduire le déficit et que ce soit les salariés qui payent.
Il paraît que France Travail, elle est en train de récupérer pour l'État sur les chômeurs en leur baissant un peu le chômage. Ils ont retiré 250 euros à l'équivalent de sur les 700 et quelques qui touchent le chômeur. La majorité, ils touchent 500 et quelques. Vous trouvez ça normal ?
Non.
Ils ont le droit.
Alors, ils ont le droit. Le problème, c'est que le gouvernement peut, par décret, modifier certaines choses. Et ils s'en privent pas. J'allais vous dire, tout est bon dans le cochon. Parce que le cochon, c'est le salarié. Donc, ils coupent un jambon. Ils n'ont aucun scrupule avec ça. Et, alors, vous parlez des demandeurs d'emploi. Ce sont, malheureusement, une population qui est souvent invisible, hein, qui ne défie pas leur, et qui sont très difficilement mobilisables parce qu'ils sont déjà eux-mêmes empêtrés dans leurs propres difficultés personnelles et donc ils n'ont pas la tête effectivement à pouvoir se mobiliser. Donc c'est très facile pour les gouvernements successifs de droite de pouvoir effectivement abuser d'eux parce que c'est vraiment de l'abus. Alors on peut le dénoncer. Mais il faut savoir qu'il y a la couverture médiatique, à part quelques rares médias comme vous qui nous donnons une parole libre, il faut regarder la télévision, c'est une catastrophe, d'accord ? TF1, c'est catastrophique, Antenne 2 reste encore. Mais moi j'ai un cas qui me... La radio Europe 1, qui était une radio généraliste de bonne tenue il y a encore une dizaine d'années, c'est devenu une antichambre du Front National, enfin du Rassemblement National.
Presque toutes les radios.
Presque toutes les radios. Donc à un moment...
On entend France Inter, France Culture, qui... C'est pas des journalistes, c'est des humoristes.
Exactement. Et France Inter, on voit bien que la future réforme des services publics qui vont en faire un grand conglomérat. Pour l'instant, ça a été en attente, mais ils vont revenir. Et donc, c'est un problème aussi, nous, de couverture médiatique des activités syndicales. Effectivement, la mobilisation syndicale n'est pas facile, on le reconnaît. On a eu notre image s'est un peu redorée depuis les mouvements contre les retraites. On a perdu ce combat. Mais on est toujours aussi déterminé pour faire que les acquis sociaux et professionnels des salariés soient respectés.
Donc les grèves vont commencer.
Oui.
Et puissants.
Oui. Oui. Même si, et je précise, que les mobilisations sont difficiles, non pas que les gens ne soient pas motivés, mais le coût de la grève pour les salariés est important. Quand on a une journée de grève, en fonction des salaires, des fois ça peut aller de 150 à 200 euros de retenue de salaire pour une journée de grève. Donc forcément, c'est un frein.
Donc il faut avoir le courage de paralyser le pays. Paralyser,
c'est ça.
Je dis.
Parce c'est que ça. Pas une grève par là. C'est ça, exactement. Voilà.
Et aujourd'hui, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Pourquoi ?
Non.
Pour quelle raison ?
Alors, déjà, c'est le week-end du 1er mai. Les gens font le pont, il fait très beau, les gens, et on est à 15 km de la plage.
Les gens ont un sac à dos.
C'est ça, et en tongs, et ils sont partis à la plage. Voilà.
Bah, dommage pour eux, parce que dommage là, il y a une belle ambiance.
Et là, il y a une belle ambiance, voilà. Il va y avoir de la musique, ouais. Il y a des grillades, il y a plein de choses. Il y a un atelier maquillage, un atelier aussi tatouage.
Ouais.
Et voilà. Donc, bah, c'est une fête conviviale, bon enfant, voilà.
Merci d'avoir répondu à toutes mes questions.
C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup.
Merci, au revoir. Allez, rappelez-moi votre nom et profession.
Pierre-Yves Aussan. Je suis éducateur spécialisé et j'exerce un mandat de délégué syndical central sur une association qui gère des adolescents en difficulté.
Merci Thierry. Voilà. Merci.
La 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 la.
Le sort du paysan français, il n'est guère enviable. Le sort du paysan français, il n'est guère enviable. Le sort du paysan breton, nigedonda, nigedondel, tralalalalalala, il est encore pire. Le sort du paysan breton, nigedonda, nigedondel, tralalalalalala, il est encore pire. Les cumulards de la ville nous volent nos terres. Les cumulards de la ville nous volent nos terres. Il nous faut nous en aller, digdonda, digdondel, tralalalalalala, dans les banlieues des villes. Il nous faut nous en aller, digdonda, digdondel, tralalalalalala, dans les banlieues des villes. Bourgeois français au salaire de famine. Y'a peu d'embauche aux joies français au salaire de famine. Quand on réclame, on se fait virer, digue-donde, digue-donde, tralalalalalala, la porte de l'usine. Quand on réclame, on se fait virer, digue-donde, digue-donde, tralalalalalala, la porte de l'usine. Le sort de l'ouvrier français, il n'est guère enviable. Le sort de l'ouvrier français, il n'est guère enviable. Le sort de l'ouvrier breton, digue-donde, digue-donde, tralalalalalala, il est encore pire. Le sort de l'ouvrier breton, digue-donde, digue-donde, tralalalalalala, il est encore pire. On n'a plus qu'à s'engager dans l'armée française. On n'a plus qu'à s'engager dans l'armée française. Pour aller tuer au Tchad ou en Martinique. Pour aller tuer au Tchad ou en Martinique. Nos frères colonisés, digue-donde, digue-donde, tralalalalalala, qui eux se libèrent. Nos frères colonisés, digue-donde, digue-donde, tralalalalalala, qui eux se libèrent. Le sort du soldat français, il n'est guère enviable. Le sort du soldat français, il n'est guère enviable. La mort d'un breton au Tchad, digue-donde, digue-donde, tralalalalalala, elle est encore pire. La mort d'un breton au Tchad, digue-donde, digue-donde, tralalalalalala, elle est encore pire.
On est à Avranches, devant la mairie de...
D'Avranches, voilà.
Alors, je suis avec monsieur...
Monsieur Grimbert, Patrick de son prénom,
oui.
Militant de la France Insoumise, co-animateur du groupe d'action de la France Insoumise d'Avranches.
Très bien. Alors, qu'est-ce que vous faites là ?
Eh bien, il est traditionnel d'être présent le 1er mai, qui est non pas la fête du travail, mais la fête des travailleurs, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Je vous rappelle, pour ceux qui ne s'en souviendraient pas, que la fête du travail a été mise en place par Monsieur Pétain. Donc nous, on est pour la fête des travailleurs. Il est traditionnel, effectivement, que chaque 1er mai, on se réunisse. Alors les associations proches de nous, ou pas proches d'ailleurs, peu importe, c'est ouvert. Les syndicats, puisque l'initiative quand même des manifestations ou des rassemblements viennent toujours du monde syndical. Mais nous, on est partie prenante aussi, on vient soutenir parce que ça nous paraît important. D'autant plus cette année où le contexte politique est quand même très, 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 très dur. Voilà. J'ai une anecdote à ce sujet. Moi, j'ai été candidat aux législatives en 2017, en 2022 et aussi en 2024. En 2024, il s'est passé une chose qui ne s'était jamais passée sur cette circonscription.
À Avranches.
Oui. Voilà, la circonscription est énorme, hein, mais énorme. Disons la circonscription d'Avranches, la deuxième circonscription de la Manche. C'est la première fois où mes affiches ont été taguées. Avec marqué antisémite. Voilà, c'est la première fois. Donc ça veut dire que le climat s'est quand même durci.
dans des proportions moindres ici dans nos régions, mais quand même, ça existe, voilà. Par ailleurs, l'offensive de l'extrême droite et du macronisme est très inquiétant au niveau des libertés publiques. Donc d'être présent aujourd'hui, il n'y a pas que la fête des travailleurs. Il y a le contexte politique qui nous entraîne à nous mobiliser, à lutter contre cette extrême droitisation.
Disons que c'est spécial, ce 1er mai 2025, il est spécial.
Oui, vous avez mis le doigt dessus. Il y a eu des 1er mai avant, mais celui-là, le contexte politique justifie la présence de tout le monde. Quoi. Voilà. Il faut mobiliser, c'est très difficile de mobiliser. Les gens, les citoyennes et les citoyens ont leurs problématiques quotidiennes et il faut en tenir compte. Mais je pense que le moment est venu quand même de faire une énorme mobilisation parce que le climat est quand même très 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 particulier et pas dans le bon sens. Quoi. Voilà.
Donc je sais qu'on est dans un moment très très difficile en France et en Europe.
Oui, bien sûr.
Disons même qui touche un peu le monde. Hein.
Bah oui.
L'extrême droite, elle est partout.
Oui, voilà.
Même les journalistes sont devenus presque de l'extrême droite, quand même.
C'est-à-dire
la majorité en France, comme on le voit.
Est-ce qu'on peut encore les appeler journalistes? C'est déjà la bonne question. Voilà. Aussi. Mais bon, Trump, Orban, tout ça, voilà. Voilà, il se passe. Et puis bon, au niveau national, on a notre lot quand même. Hein. On a quand même M. Retailleau, on a abat le voile, etc.
Si on revient à Retailleau, c'est Retailleau, Darmanin, ils veulent régler le problème avec l'Algérie, mais même pas avec.
Dès qu'ils entendent le mot musulman, ils sortent leur revolver. C'est une image, mais pas tant que ça. Il y a quand même eu ce meurtre. À la grande combe, hein, de ce...
Moi, je me pose la question, comment c'est venu comme ça?
Alors, d'abord, c'est venu, et ça, déjà, on peut se poser la question, mais surtout, M. Retailleau, qui est le ministre de l'Intérieur et des Cultes, ne s'est même pas déplacé pour soutenir la famille.
C'est pas une synagogue qui a été attaquée.
C'est peut-être pour ça. J'en parle d'autant plus facilement que moi, je suis d'origine juive. Donc d'avoir vu sur mes affiches...
Rien à voir avec les juifs.
Bah moi je suis d'origine juive, mais je suis foncièrement anti-Netanyahou et foncièrement anti-sioniste. Mais ça ne fait pas de moi un antisémite.
Bien sûr.
Hein, voilà. Donc, mais ça, il faut l'expliquer.
Comment vous avez eu des affiches taguées?
Ouais, absolument, absolument.
C'est grave quand même.
Bah oui.
Ici dans
oui, alors on sait effectivement que c'est très à droite ici. C'est très très à droite.
Mais droite.
Et extrême. Voilà. En 2022, aux législatives, on a réussi, je dis nous avons réussi parce que moi je n'étais que l'incarnation de ce que je représentais. Nous avons réussi pour la première fois historiquement à mettre une liste de gauche au second tour des législatives. C'était la première fois, ça n'était jamais arrivé. Et battre le Front National sur son propre terrain. Bon, c'est un macroniste qui a été élu, hein, mais... Et en 2024, malheureusement, nous n'avons pas pu passer ce cap, parce que le RN a beaucoup progressé en voix. Nous, on a progressé en voix, par rapport à 2022, de 3000 voix, donc c'est beaucoup, mais eux, de 11 000. Donc ici, c'est une terre de conquête, de mission pour la gauche. Il se trouve que nous, on a la chance de bien s'entendre avec nos partenaires. Le Parti communiste, les Verts, etc. Ça se passe bien. Parce que humainement, on se connaissait. Et ça aide quand humainement, on se connaît pour discuter, pour débattre et pour organiser les choses. Voilà. Donc, on est présent. La France insoumise ici est très présente. Nous bénéficions même d'un local permanent à Avranches où on peut se réunir. Voilà. Et en campagne, le groupe d'action... Alors, il y a 4 groupes d'action insoumis. Il y a Granville, Carole, Saint-Hilaire et ici. On se réunit une fois par mois et on est toujours entre 15 et 20 à se réunir. Donc ça veut dire que le militantisme existe. Quoi. Sachant que le mouvement, il n'y a pas de carte, il n'y a pas de cotisation. Chacun fait comme il peut, comme il veut. Voilà, on va, on vient. Mais en période de campagne, si je prends la dernière campagne électorale, on avait une équipe de 60 personnes sur le circo quand même. Donc, la mobilisation en période électorale, on arrive à la faire. Voilà. Avec des militants ou des sympathisants, et ça se passe toujours très bien. Voilà.
On entend beaucoup, grâce à votre présence ici, quand même, ça a changé à la France Insoumise. Elle a un peu chamboulé les...
Absolument.
Votre présence, elle fait peur aussi.
Elle existe.
Elle est visible.
Même nos opposants disent qu'on a raison d'être présent, voilà. Donc, bon, ils le disent par pure hypocrisie, bien entendu, mais c'est pas grave.
Être présent mieux qu'être invisible, quand même.
La mentalité, vous en avez parlé, des journalistes mainstream, comme on dit, c'est quand même d'invisibiliser l'AFI ou de la vouer aux gémonies. C'est toujours le même antisémite, etc. Voilà. On baissera pas les yeux. On sera là et on continuera à être là. Et plus notre mouvement est mis à mal par nos opposants et quelquefois par nos partenaires, plus on récolte du respect et des militants. Voilà, donc qui continue, c'est pas un problème. Nous, ça nous va. En revanche, ce qui est très inquiétant, c'est, comment dirais-je, cette facilité maintenant qu'a le discours raciste, antisémite, anti-musulman, à se répandre de manière tout à fait fluide, comme si tout était normal, etc. C'est insupportable. Voilà.
Comment c'est le seul parti qui a pris position dans des situations graves, quand même, la Palestine.
Je pense que
il
n'y
a pas que la
Gaza,
Palestine,
non,
le Soudan, les musulmans.
Oui, au départ, on nous traitait de malades, de pro-terroristes, de pro-Hamas. Je pense que l'opinion est quand même...
Islamo-gauchiste, c'est démodé.
Oui,
on est arrivé à terroriste.
Nous, on est wokistes, islamo-gauchistes, antisémites, voilà. Bientôt, on sera pédophile ou antiféministe, voilà. Non, c'est pas sérieux, quoi. Pendant ce temps-là, on perd du temps, quoi, par rapport à la situation générale du pays. Voilà. Un budget... Le pire budget austéritaire de tous les temps, voilà. Et notre partenaire, le PS ne vote pas la censure. Ouais, moi je peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre. Je le dis d'autant plus facilement que moi j'ai 20 ans de PS. Et que j'en ai été exclu en 2008 pour rejoindre Jean-Luc Mélenchon au parti de gauche. Donc moi, PS, c'est terminé, quoi. Alors, je vais vous révéler quelque chose. On a une chance incroyable. Ici, c'est très à droite, mais il n'y a pas de PS. À Avranches, il n'y a même pas de section Parti Socialiste. Ça n'existe pas. En 2017, il y a eu un candidat qui a été désigné par le Parti Socialiste, qui n'était même pas encarté au Parti Socialiste. Voilà. Et moi, en 2017, c'était ma première campagne dans le coin. On a fait une super campagne. Et à moi tout seul, alors que j'étais moins connu, j'ai fait mieux que les trois candidats de gauche qui étaient aussi candidats. Mmh. Voilà. PC, Vert et PS.
Et le maire ici de Avranches, de quelle tendance ?
Vous voulez que je vous dise de quelle tendance il est ? Et je vais vous dire ce que lui dit, en plaisantant. Il est anarcho-baladurien. Donc il est rien. Donc il est de droite.
Il ne représente rien.
Vous savez ce qu'on dit, il est du centre. Et quand on est du centre, on n'est ni de gauche ni de gauche. Voilà. Donc c'est clair. Dans son premier mandat, il y avait une camarade insoumise qui était conseillère, et elle n'a pas fait tout le mandat, et il l'a sollicité pour être sur la liste au deuxième mandat, elle a refusé. Non, il est carrément passé à droite, quoi. Voilà. Mais là, il va avoir des grosses oppositions. Il y a une ancienne conseillère municipale qui a été élue sur sa liste qui se présente contre lui. Il y a l'ancien député maire qui va se présenter contre lui aussi. Donc on va essayer de se glisser, nous, une vraie liste de gauche, d'union de la gauche. C'est compliqué de monter une liste, parce que ici ça fait beaucoup de monde et à parité. Mais on est sur les rails et on va essayer de faire quelque chose. Voilà.
Et cette année, souvent le signe, le 1er mai, c'est quoi exactement ? La dernière année, c'était la retraite. Et cette année ?
Là, c'est contre la guerre. Toutes les guerres, enfin, je dis contre la guerre, mais la guerre en général, la guerre sociale qui est quand même celle qui a été déclarée par le macronisme, avec son supplétif les Républicains et son deuxième supplétif. Le macronisme, c'est un mouvement qui a deux béquilles, la droite et l'extrême droite. Le RN est une arnaque pour les citoyennes et les citoyens. Défenseur du peuple dans les médias et tout à fait l'inverse lorsqu'il faut prendre des décisions au niveau de l'Assemblée nationale. Pas de censure, pas d'ISF, pas d'augmentation du SMIC, ta. Donc c'est une arnaque. Il faut, malheureusement, il nous faut être convaincants, pédagogues, pour montrer effectivement à nos concitoyennes et à nos concitoyens qu'ils sont victimes. Donc le 1er mai de cette année, c'est la paix. La paix sociale, contre la guerre sociale et contre l'extrême droite. Et puis j'allais dire un petit mot pour Gaza.
Bien sûr.
Hein, parce que quand on est contre la guerre, un petit mot pour Gaza, et on lâchera rien. Je pense que cet après-midi, il y aura du monde sur la canne-bière.
Sûrement.
Voilà. Il se trouve qu'on a deux ou trois copains et copines qui y sont allés. De Normandie, défiler, manifester à Marseille, voilà. Donc, il y aura du monde.
Présence à Bompard et voilà.
Moi, il se trouve que, à titre personnel, je le connais, Manuel Bompard, parce que j'ai milité en région toulousaine et il était au parti de gauche en région toulousaine. J'ai eu la chance, le privilège, la fierté d'avoir des responsabilités nationales au sein du mouvement de la France insoumise, puisque j'étais membre du comité électoral pendant des années, et ils font le job.
Et comment vous le trouvez, Bompard? Moi, je le trouve...
Il a beaucoup évolué par rapport à ce que j'ai connu il y a une dizaine d'années. Hein. C'était quelqu'un de très discret, en retrait, très puissant, mais ouais. Très organisateur, avec une vista intéressante. Là, je trouve qu'il est... Il se lâche, quoi, mais de bonne manière, quoi. De toute façon, globalement, moi, je trouve que nos élus font le job. En tout cas, moi, je considère qu'on les a élus pour ça.
Donc Mélenchon est là, la relève.
Oui. Alors, le gourou, la secte, tout ça glisse.
On vit avec ça.
Ouais, c'est ça, voilà. Là, il a pleuré, tout de suite, c'est un bon comédien. Non, je pense qu'il est sincère. Sinon, il l'aurait pas fait, quoi. Voilà, ça lui fait rien gagner. C'était humain. Je pense que c'est un être humain, voilà. Mais au sens noble du terme, voilà. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire.
Si vous voulez rajouter quelque chose,
c'est bon.
Pour les Marseillais,
bon courage pour les Marseillais. Mais ne lâchez rien. On sait que à Marseille il se passe des choses très très intéressantes et qu'il continue, quoi. Ne baissons pas les yeux, continuons. La preuve sur Gaza, ça évolue dans notre sens. C'est long, c'est difficile, mais on va y arriver.
Merci beaucoup. Rappelez-moi votre prénom.
Patrick Grimbert, Avranches. Co-animateur et candidat législatif pour la France Insoumise et le Nouveau Front Populaire, qui, même s'il est difficilement accessible maintenant par nos partenaires, surtout sans que je les cite, ceux du PS, voilà. Mais courage à tout le monde et puis bon 1er mai.
Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.
Avec plaisir.
Et bon vent.
Merci à vous aussi.
C'est
bon
pas
courage.
L'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Tatatin, moi la mer, elle m'a pris, je me souviens, un mordi. J'ai troqué mes Santiago et mon cuir un peu zone contre une paire de Dockside et un vieux ciré jaune. J'ai déserté les crasses qui me disaient « Sois prudent, la mer c'est dégueulasse, les poissons baissent dedans. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous en allerons. » C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Moi la mer, elle m'a pris au dépourvu, tant pis. J'ai eu si mal au cœur sur la mer en furie. J'ai vomi mon 4 heures et mon minuit aussi. Je me suis cogné partout, j'ai dormi dans des draps mouillés. Ça m'a coûté des sous, c'est de la plaisance, c'est le pied. Dès que le vent soufflera, je repartira. Et que les vents tourneront, nous nous en allerons. C'est pas l'homme qui prend. dans la mer, c'est la mer qui prend l'homme, mais elle prend pas la femme qui préfère la campagne. La mienne m'attend au bord, au bout de la jetée, l'horizon est bien mort dans ses yeux délavés. Assise sur une bite d'amarrage, elle pleure, son homme qui la quitte. La mer c'est son malheur, dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons. L'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Moi la mer, elle m'a pris comme on prend un taxi. Je ferai le tour du monde pour voir à chaque étape si tous les gars du monde veulent bien me lâcher la grappe. J'irai aux quatre vents, foutre un peu le boxon. Jamais les océans n'oublieront mon prénom. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en la mer qui prend l'homme, moi la mer elle m'a pris et mon bateau aussi. Il est fier mon navire, il est beau mon bateau, c'est un fameux trois mâts, fin comme un oiseau. Cavardi, Pajot, Kersauzon et Riguidel n'habitent pas sur des cajots ni sur des poubelles. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons. L'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Moi la mer, elle m'a pris, je me souviens, un vendredi. Ne pleure plus ma mère, ton fils est matelot. Ne pleure plus mon père, je vis au fil de l'eau. Regardez votre enfant, il est parti marin. Je sais, c'est pas marrant, mais c'était mon destin. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons de requin.
Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons.
Dès que le vent soufflera, nous repartira. Dès que les vents tourneront, je me n'en allerons de lapin.
Alors, ouais.
Je porte le drapeau est faux, je porte le drapeau est faux.
Exactement. Alors, on est là à Branche toujours, je ne vais pas bouger. Je suis avec monsieur.
Hervé.
Hervé. Vous êtes venu pour fêter le 1er mai.
Oui.
Et vous faites quoi dans la vie?
Est-ce que je suis retraité infirmier.
Vous avez travaillé
dans la fonction publique hospitalière.
Ok. Est-ce que ça va? Qu'est-ce que vous avez eu comme...
Bien, il y a que je suis là parce que je fais une démarche auprès du syndicat pour obtenir mes droits à la retraite complets.
Mm-hmm.
Pas partiels, mais complets. Et que je les avais obtenus jusqu'alors et que ça a été, pas contesté, mais ça a été supprimé par ma caisse de retraite unilatéralement, sans me prévenir, et d'un montant fabuleusement important pour moi. Parce que je suis passé... J'ai perdu quasiment 40% de ma retraite. Dans un calcul qui leur appartient à eux, qu'ils ont déterminé eux, et qu'ils ont décidé eux, sans me prévenir, sans préavis, et manifestement ça a l'air de s'installer pour le restant de ma vie. Si je ne fais rien maintenant, ils vont m'oublier, je vais les oublier, et je vais rester en bas de l'échelle, je parle de la retraite, toute ma vie.
Et pourtant, vous avez beaucoup donné dans votre travail.
Un peu, oui.
Et là, vous êtes en colère.
Je viens réclamer mes droits. Donc, j'avais fait une démarche auprès de la CGT. Mais manifestement, ils sont un peu aussi débordés de demandes autour de ça. J'ai fait une démarche aussi auprès de la CFDT. Ils ont aussi manifestement... Ils ne sont pas là aujourd'hui. Ils ont aussi manifestement débordé de demandes. Donc, je ne sais même plus à quel sein me vouer. À part me démerder moi-même, tout seul, comme je l'ai fait jusqu'alors. Ça m'a d'ailleurs pas trop mal réussi. Parce que ma mise à la retraite, je me l'ai fait tout seul. J'ai pas demandé à Pierre-Paul Jacques, je me suis demandé tout seul. J'ai regardé mon droit, j'ai regardé mes années, j'ai regardé ça, j'ai fait mon plan de carrière et je me suis dit, j'ai le droit à ça. Je m'étais trompé, mais j'avais le droit quand même. Je m'étais trompé sur la je ne m'étais pas trompé sur la quantité, je m'étais trompé sur la quotité. Voilà.
Quotité, c'est-à-dire ?
C'est-à-dire, quotité, c'est-à-dire le temps de travail, les années de travail, voilà. Les années de travail et la pension qui était inhérente au nombre d'années effectuées. Mais pas sur la quantité. Sur la quantité, j'étais dans l'exactitude. Pas sur la quotité. Et là, on est en train de me braquer carrément, me récupérer sur la quotité. C'est-à-dire, année de travail, valeur travaillée, valeur payée. Et là, on est en train de me gratter sur la valeur payée. Pas sur la quantité travaillée, mais sur la valeur payée. Et je ne peux faire que des réclamations. Vont aboutir. Mais quand, je ne sais pas.
Donc ce 1er mai, pour vous, c'est une bataille.
Carrément. Carrément, j'étais tranquille. J'avais recommencé même ma vie presque décemment, à me dire, voilà, je pars en vacances, je peux m'offrir une voiture, je peux ceci, je peux cela. Là, je me retrouve à dire, ah là là, comment je vais finir les fins de mois. Là, j'ai pas payé mon loyer, par exemple. Et je vais les payer quand je déciderai. Pourquoi ? Parce que au début du mois, j'ai 320 balles qui partent pour un loyer et que je n'ai aucune aide. Et que 320 balles, et ben c'est déjà presque 30% de mes revenus.
Et comment vous vous êtes retrouvé dans cette situation ?
Ben, je ne sais pas moi-même.
Est-ce que vous êtes parmi les seuls ou il y a des cas comme vous ?
Non. J'ai délégué tout ce qui s'est passé à ma caisse de retraite qui, jusqu'alors, a répondu « Amen à toutes ». À toutes les demandes, à la mise à la retraite, à la quotité de travail, justement, à la quantité de travail, aux années cotisées, etc. Tout était d'équerre. Et puis, au mois de novembre dernier, ça a commencé à baisser. Donc, j'ai cru qu'il y avait un petit trou dans la raquette, on va dire, le temps que, je ne sais pas quoi, un truc, peut-être une histoire de gouvernement, une décision d'État. Et puis, ça s'est pérennisé. Décembre, puis janvier, février, mars, et là on est en avril, et ça s'est pérennisé. Et ça a l'air de prendre le chemin de la pérennisation à vie.
Et comment vous vivez comme ça ?
Ben, je vis ça mal. Je vis ça mal. Je veux dire, si c'est mon droit, j'irai au tribunal administratif s'il le faut.
Et la CGT dans ce...
Bah eux, ils se débattent dans bien de problèmes. C'est bien le 1er mai, mais il y a beaucoup de dossiers en souffrance apparemment.
Oui, mais votre cas est grave quand même.
Bah j'ai interrogé Monsieur Daradon là-dessus, mais c'est bah on verra demain, camarade. On verra demain, camarade. Moi je veux bien, mais je vais au local, il n'y a jamais personne. Il n'y a même pas quelqu'un qui prend la permanence tous les samedis pour noter les problèmes. Ne serait-ce que ça, il faudrait un secrétaire qui fasse juste ça, noter les problèmes. Lire les messageries, s'il y a une messagerie pour la CGT, et noter les problèmes. Et dire, bah voilà, on vous convoque et vous prenez votre carte et puis on travaille avec vous. Là, non, je ne sais pas ce qu'ils font.
Donc si je comprends, la CGT, elle est là juste pour faire des grèves.
Ils sont là pour le 1er mai déjà, c'est pas mal.
Oui. Mais pour bloquer les gens.
Mais manifestement, ils n'ont pas l'air de traiter les dossiers. Moi, le mien, je sais que c'est pas un péril imminent. J'ai pas été licencié. Je suis pas au chômage. Il n'y a pas de conflit entre moi et mon employeur. Ça fait 7 ans maintenant que j'ai quitté mon employeur. 7 ans. C'est long, 7 ans.
Ouais.
Donc il n'y a pas de conflit. J'ai même rappelé, j'ai rappelé le syndicat CGT de l'établissement tutelle, de mon établissement tutelle, qui m'a dit, mais on se souvient de toi, ouais, t'étais le mec qui avait bossé à Paris, à Nantes, et tout. J'ai dit, oui, c'est moi, c'est bien moi. Bah oui, mais le délégué syndical qui traitait ton dossier quand t'es parti à la retraite, il est lui-même parti à la retraite. Donc on peut rien pour toi, Hervé. Donc, rapproche-toi de... Et puis il m'a donné tout un fil rouge.
Donc vous êtes là pour avoir une autre retraite alors ?
Pour avoir mon droit complet à la retraite.
Voilà.
Point barre.
Vous avez mal démarré.
Non, c'était. Je vous dis, honnêtement.
Ah ouais, mais c'est bizarre.
J'y croyais plus.
J'ai étonné.
Il y a de ça 5 ans, on me fait un rattrapage de 2 années sur mes droits à la retraite. C'est-à-dire qu'on me donne une pension de retraite et puis on me rattrape 2 années de pension. Jusqu'ici, je me dis, ah, erreur à ma faveur. Et peut-être que c'est une erreur de leur part, mais si c'est une erreur en ma faveur, c'était pas une erreur en ma faveur, c'était un droit. Ça s'est pérennisé pendant 3 ans, et puis d'un seul coup, ping, on redépart, on revient au point de départ. Ils me remettent au point de départ de là où j'ai posé mes droits à la retraite. Si j'avais pas été ici à Avranches, prenez le bouillon. Si j'avais emprunté de l'argent à la banque, j'étais cuit.
Ouais.
Bah oui, je pouvais encore, même en étant tout seul, j'avais un revenu qui dépassait, je sais pas dire.
Où est-ce qu'il y a,
je m'en cache pas, mon revenu, je m'en fous. Les gens veulent ma fiche de paye, tiens, je te la donne. J'en ai rien à foutre. Mes droits à la retraite, si j'étais allé à la banque en disant, sur la bonne tête que j'ai là, avec les garanties que j'ai, avec le salaire que j'ai, parce que je parle pas de salaire, je parle pas de retraite, je parle de salaire, moi. Je déteste qu'on parle de retraite, finalement. Ça me vieillit. Donc je veux mon salaire, là. Vous me prêtez? Le banquier m'aurait prêté. Ça, c'était à deux doigts. Si je poussais un peu, si je disais, écoutez, moi je suis prêt à investir dans un appartement ici, ou je ne sais trop, machin, une bicoque au bord de la mer, je suis sûr que le mec il me prêtait sur ma bonne tête.
Bah écoute, moi je vous souhaite bon courage.
Je suis pas désespéré, vous voyez bien.
Bah oui.
Je suis en bagarre, je suis en colère. Ce que j'ai peur, c'est que ce que je viens de vous dire ne servira à rien, ni à personne. Ce que je viens de vous dire, c'est que, hélas, j'ai bien peur que, avec les problèmes de retraite actuels, etc., de changement d'âge, de départ, des années, dans mon cas, je viens d'avoir 61 ans, là, au mois de décembre dernier, j'ai bien peur que ça devienne pérenne. Mais mon loyer, à la fin du mois, je vais pas aux allocations logement. Mon électricité, je vais pas, je la paye. Mon eau, je la paye. Ma bouffe, je la paye.
S'en aller avant d'avoir fini sa tâche. J'en ai fait la moitié du quart du centième. Et le plus souvent par hasard, il faudra bien partir quand même.
Pour ne pas ruminer ça.
Pour vous, rien ne s'arrêtera.
Bon courage.
La scène au pied de Notre-Dame, au même rythme, coulera ma mort, ne sera pas un drame. Je n'étais pas un pharaon. Que s'éteigne la courte flamme. Je n'ai rien fait que des chansons.
Bernard Dimé.
J'aimais les parfums de l'enfance. J'adorais mes 70 ans, je les idolâtrais d'avance. J'étais à mon aise dedans. Je n'ai pas de philosophie, je n'ai jamais compris le mot, ça ne fait rien. J'aime la vie, je voudrais connaître Tokyo et l'Amérique où l'on s'amuse à se défaire une raison. J'aimerais tant voir Syracuse, mais tout cela n'est que chanson. À toi, le dernier mot du conte, la minute de vérité. Je t'aime, et c'est tout ce qui compte. J'aurais du mal à te quitter.
Et trop d'abdominaux, contractant leurs abdominaux, raides comme des momies, croient en one man show à Bobino. J'enchaîne gin tonique, cigarette conique, effet bionique. Et d'un coup je me sens ironique, que tout le monde bouge tes fesses, ça sent péter le coccyx. C'est le son le plus toxique de l'histoire de l'Occident. T'es bonne comme on les aime, alors bouge tes cheveux. Et sur la piste de danse, fais ce que tu veux. Si t'es bonne comme on les aime, vas-y bouge tes cheveux. Bouge tes cheveux, non, bébé, bouge tes cheveux. Moi, tu veux foutre la merde? Non, bouge tes cheveux, petit sauvage, on bouge tes cheveux. Si t'es bonne comme on les aime, vas-y, bouge tes cheveux, non, bébé, bouge tes cheveux. Même si t'as la boule à serre, vas-y, bouge tes cheveux, petit sauvage, on bouge tes cheveux. Au bar, y'a cette bande de malabar.
Allez, maintenant, on va passer exactement à la cloche. Vous savez qu'hier, c'est déroulé devant la gare Saint-Charles. On appelle ça la montée des marches organisée par l'association La Cloche. Oui, La Cloche Sud. Elle s'appelle La Cloche Sud, celle qui s'occupe des sans-abri, des mineurs, des clandestins, des migrants, des voilà. Donc ils ont organisé quelque chose de sublime. D'ailleurs, il y avait Radio Galère qui était là, qui ont fait le direct hier. Ouais, c'était le direct. Et moi, j'ai occupé un peu les coulisses, hein, pour donner le micro à ces sans-abris, à ces migrants qui voulaient parler quand même, hein, à ces mamans, voilà, à ces les associations, les gens qui sont venus regarder et qu'ils ont dit ce qu'ils pensent sur eux. Alors donc, ça s'est passé dans les marches de la gare Saint-Charles. Donc ils étaient nombreux, hein, quand même, hein. Il y avait à partir de 16h à l'escalier monumental de la gare Saint-Charles. Donc bien sûr, organisé, comme j'ai dit tout à l'heure, par La Cloche, que vous allez suivre maintenant dans un moment, le reportage que j'ai réalisé, nous, les Haragas, sur les ondes de Radio Galère.
Moi, je suis bénévole.
Bénévole en quoi? Votre métier?
À la cravate solidaire.
Qu'est-ce que vous faites à la cravate?
Bah, je relook des gens.
Très bien. Alors, quel genre de gens?
Monsieur tout le monde.
Ouais.
Ouais.
Et vous avez commencé quand le...
Oh, j'ai commencé, ça fait un an passé, quoi. J'approche les 2 ans, là.
Les 2 ans?
Ouais,
Et 2 ans. Ça marche
Bah, c'est bien, surtout de voir le regard des personnes, comment ça change leur vie de se sentir, de s'aimer tout d'un coup, quoi. Rien que des nouveaux habits, tout d'un coup, ils se rendent compte qu'ils sont beaux, quoi. Quelle que soit la personne, elle est belle, quoi, tout d'un coup, quoi. Rien que des habits, quoi. C'est dingue, hein, quand même.
C'est pour ça qu'on dit l'habit ne fait
pas. Bah oui, mais ça y contribue lourdement, hein.
Exactement.
Lourdement.
Parce que Marseille, quand même, c'est une ville magique, dans le sens où on trouve de tout.
Voilà. Vous avez tout dit.
À n'importe quel coin, on trouve un SDF, on trouve son papier, on trouve... C'est la ville qui renferme tout. C'est dû à quoi exactement?
Ouais, on trouve de tout, comme vous dites. Le soleil aussi.
Exactement.
C'est ça le principal, quand même. Hein. C'est pour ça qu'on est là.
Ouais.
Il vaut mieux être pauvre au soleil que pauvre au froid, quoi. Donc on est mieux ici, quoi qu'il arrive.
Oui, même le Mistral, quand même.
Oui, de temps en temps, ça souffle un peu, mais bon, ça fait respirer.
Alors là, est-ce que vous avez des tenues ici ou non? Vous avez exposé?
Il y a quelques tenues, ouais, on a habillé les présentateurs. Là.
Ouais.
On a distribué des cravates, si vous en voulez une, à la place de votre petit foulard.
Moi, il n'y a pas de problème, hein. Je m'habille comme ma tête me le dit. Hein. Je dis jamais non.
Ouais.
Parce que mon travail, c'est donner la parole aux sans-voix.
Ah, d'accord. Donc, mais moi, j'ai une voix quand même.
Ouais. Mais vous représentez quand même ce qu'on voit agir les gens. S'il y en a beaucoup comme vous, on ne sera pas dans la misère. On sera pas
ouais,
parce que quand même, il y a beaucoup de misère en France. C'est du jamais vu.
C'est vrai. C'est triste. Mais bon.
Alors il nous faut quoi? Comme il nous faut Coluche, il nous faut remettre les pendules à l'heure.
Je sais pas ce qu'il faut.
Alors aujourd'hui on est là dans l'escalier qui mène à la gare Saint-Charles. Pourquoi j'avais choisi ce lieu?
Ah ben moi j'ai pas choisi, c'est La Cloche qui a choisi ce lieu. Moi j'aurais choisi de faire descendre les gens. Le tapis rouge l'aurais mis au milieu, obligeant tous les passagers à faire le détour. Voilà.
Ah donc c'est qu'un aux sans-abri?
Ouais, bah oui.
Qu'un à tout le monde?
Bah oui, à un moment donné il faut être au milieu de tout le monde et il faut obliger les gens à le voir. Mais enfin, c'est bien parce que quand on arrive d'en bas là, on voit le rouge. Hein.
Et ça fait combien d'années que vous êtes à Marseille?
Ah, ça fait une petite dizaine d'années maintenant.
Ah ouais, vous êtes originaire d'où? De Toulouse.
À Toulouse avant.
Toulouse. Ben, je le dis comme ça, c'est incroyable. Ben, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Bonjour.
Merci.
Bonjour. Je vous ai vu signer tout à l'heure. Vous avez signé quoi exactement?
Ah, j'ai pas signé, en fait, c'est un documentaire, un questionnaire que fait le journal Un Autre Monde pour sa percée un petit peu et son évaluation.
Ouais, parlez-nous de ce journal.
Alors, le journal Un Autre Monde, c'est un journal solidaire et qui permet aux gens qui sont en grande difficulté, qu'elles soient en rue ou pas, de pouvoir représenter ce journal, d'y participer, de le créer, de créer des événements avec le journal, et aussi de le vendre. Et par ce biais-là, les personnes qui vendent le journal ont un bénéfice de 3 euros. Le journal est vendu 3,50 euros. Ils ont une carte de colporteur, c'est tout à fait légal, et ça leur permet d'avoir un subside beaucoup plus important, et quelquefois même de manger, tout simplement. Donc c'est très très important d'avoir à la fois la culture et la solidarité. C'est une belle association qui prendra de l'ampleur, et je pense qu'elle est nécessaire. Ça existe dans beaucoup de pays, hein. Il faut dire ce qu'il y a, mais celui-là est particulier parce que la plaquette est très très belle, c'est très bien traité, il y a des articles de qualité avec des gens de qualité, mais aussi des gens de la rue, des dessins, etc. Donc c'est un événementiel qui est très prometteur.
Ben, Marseille, quand on est à Marseille, quand on voit Marseille, elle a changé beaucoup, Marseille.
Alors Marseille, ça évolue.
Évolue dans quel sens? Attention.
Alors, peut-être pas en bien. Ouais. Moi, je connais bien Marseille depuis longtemps. Peut-être pas en bien parce qu'il y a une certaine violence qui s'y installe au fur et à mesure. Mais Marseille, c'est un port, et l'avantage de Marseille, c'est qu'il avale toutes les cultures.
Il rejette.
Et il rejette ou il inclut. Il inclut. Et donc, ça a toujours été ça, Marseille. La seule différence qu'il y a aujourd'hui, c'est que dans Marseille, la solidarité est plus forte qu'avant. Il faut le savoir. Allez, alors, ce qui est paradoxal, c'est qu'à Marseille, les gens qui sont riches et pauvres ne se mélangent pas. Mais par contre, la solidarité, elle est toujours là. La solidarité des commerçants, la solidarité des gens, elle est très très forte. Et je peux vous assurer qu'elle est beaucoup plus forte que dans toutes les villes de France. Parce que justement, on sait que Marseille, c'est un vivier où les cultures sont mélangées, que les gens sont dans le besoin. Et ça, c'est important.
Vous faites quel métier sans être curieux?
Je fais la retraite.
À la retraite, mais...
Je suis à la retraite, non, mais je suis très impliqué dans le social.
Ah, ok.
Voilà, et donc je connais un petit peu la chose, effectivement. Et il est important de donner ce message, de se dire que... L'abbé Pierre disait une phrase qui était essentielle, c'est que le contraire de la richesse, c'est pas la pauvreté, c'est le partage. Et cette phrase, elle est essentielle pour faire avancer les choses. Effectivement, la société est dure aujourd'hui, elle est de plus en plus dure, mais par le partage et par la compréhension des gens, et en allant vers eux, on arrive à beaucoup de choses.
Dernière question, comment vous voyez la Marseille en particulier et la France en général?
Alors, c'est une belle ville, Marseille, déjà. Je la vois comme un melting pot. Un petit peu comme New York, à l'instar, il y a beaucoup de représentants de toutes nationalités à Marseille, mais surtout avec un climat convivial, une grosse convivialité, même si c'est des fois un petit peu heurté, c'est convivial. La France, je dirais que malheureusement, on est en difficulté quelque part, et que il y a des choses dont il faut qu'on prenne conscience, ne plus vivre dans le déni et se dire qu'on peut vivre totalement différemment dans le social, en faisant des choses, en se réunissant, en travaillant ensemble, en œuvrant ensemble. En allant l'un vers l'autre, on arrive à des belles choses. Une personne qui est en difficulté, qui tend la main, on ne peut pas lui refuser ses services. Et si la personne qui est en face est intelligente, elle ne vous demandera pas cette main, bien au contraire. Ça crée de belles amitiés, de belles choses.
Rappelez-moi votre nom et prénom.
Michel, tout simplement.
Michel, Clonieki,
retraité, voilà.
Merci beaucoup.
Mais je vous en prie.
Merci d'avoir répondu à nos questions.
Je vous en prie.
Merci.
Michel.
Oui. Ah ben voilà, elle a dit Michel. Et vous, vous appelez comment?
Mohamed.
Ah ben, bonjour Mohamed, ou bonsoir.
Bonsoir.
On est là ici à Cannes quand même. Hein.
Vous encouragez la cloche?
Exactement. Oui, alors,
oui, vous faites c'est... quoi vous? Moi, je suis un bénévole avec la cloche.
Oui.
En même temps, je suis un acteur et chanteur.
Ah bah, je suis bien tombé alors.
Ouais.
Un Rayman ou du Rai ou du Chabi?
Oui, tout. Tout le Maghreb.
Ouais.
Tout le Maghreb. Rai, Chabi, Marocain, Tunisien, Gnaoui, oui. J'ai un groupe et je suis un acteur, un artiste avec Raoul Ibe.
Ça,
qui était le spectacle.
Parle-nous de votre groupe.
Mon groupe, c'est le groupe qui s'appelle Frangin. On était trois qu'on a
construit. Moharabi ou la Djezairi?
Djezairi.
Moharan
ou... Les musiciens sont tous de Oran. Sont tous de Oran et de Ntmouchent et de Tlemcen. Moi, je suis de la capitale et...
Tlilet.
Voilà, c'est des gens
Margun.
De... Voilà, c'est des gens de... La majorité, c'est de l'Ouest. Et moi, je suis de la capitale, et on était ensemble, on a créé ce groupe, parce que tous les musiciens qui ont déjà un talent, qu'ils ont joué avec Cheb Khaled, ils ont joué avec Hasni, avec Cheb Sahraoui, Hamid, Zawania, c'est déjà les musiciens, je parle des musiciens.
Oui.
Et le deuxième chanteur qui est avec moi, même lui, il a chanté.
Vous êtes libre de parler.
Oui, même lui, il a chanté avec Cheb Khaled, Hasni et tout ça. Et après, ici à Marseille, on a construit le groupe. on a commencé de faire des petites soirées du but. Et maintenant, on fait des soirées partout.
Alors, monsieur Mohamed de la Cloche, depuis quand vous êtes là à Marseille?
Depuis le 23 janvier 2018.
Vous êtes venu d'Algérie ou vous êtes ici né ou...
Non, j'étais en Algérie. J'ai grandi là-bas, j'ai fait mon carrière là-bas et après...
Et depuis, vous êtes là, tombé amoureux de
Marseille. Voilà, de l'OM.
Oui, exactement.
Je suis très content de toute façon. À Marseille, je suis très à l'aise, sportif et tout.
Vous faites quoi comme sport?
Ça, c'est... Khabou. Khabou, oui, c'est mieux.
Ah, voilà, t'as comme quoi, là?
Il est du Maroc.
Maghrebi.
Maghrebi.
Oui, c'est la club. Présentez.
C'est un... qui fait la bénévole avec... comment ça... Non. Avec le secours catholique. C'est d'origine marocain. Et il est là en France, il est à Marseille. Il essaye de rentrer avec la cloche pour aider la cloche.
Et vous parlez français un peu, non?
Oui, bien sûr.
Parle-nous un peu du Maghreb. C'est notre pays quand même.
Bien sûr.
On est tous des frères.
Voilà, on est tous réunis. Ça, on est tous là pour passer un très bon moment. Et faire montrer que les SDF, les personnes qui sont dans la rue, ils ont aussi des talents. Ils ont un talent, marcher, prendre des photos, parler avec les journalistes, parler avec la presse. C'est un talent. Et on est plusieurs. Moi, perso, je suis bénévole à la TIRS.
Et comment vous avez connu, secours catholique, la cloche, tout ça, Mohamed?
J'ai connu Mohamed, la cloche, le secours catholique grâce à des événements. Il a eu, il y a une fois par mois, à Bétaline, il y a un cours de théâtre. C'est là que j'ai rencontré Mohamed, Momo. Et, un très très beau acteur, un très bon musicien, un très bon chanteur. Et j'ai connu la cloche, j'ai connu David, j'ai connu Sati, j'ai connu Abbé. Et toute l'équipe, et Julie, et on est une équipe de...
Et vous êtes venu comment? Est-ce que vous étiez SDF? Vous étiez quoi exactement?
Moi à la base, je suis né au Maroc.
Ça.
Et je suis arrivé jeune ici en France. Je suis venu avec une grâce à l'époque au roi Hassan II.
Ça, oui.
Pour une association... pour les handicapés, on est venu une semaine en France et les autres sont repartis au Maroc et moi je suis resté en France.
Toi aussi tu es tombé amoureux de Marseille?
J'ai tombé amoureux de Marseille, exactement.
Oui. Et depuis tu n'as jamais quitté Marseille?
Depuis, j'ai déjà quitté Marseille, mais je suis passé en Marseille. En fait, il y a un proverbe à Marseille, il dit dès que tu quittes Marseille, tu es obligé de revenir à Marseille.
Yannick, c'est comme la chanson de Dahmal Haras, il y a un rêve, tu reviens ou tu oublies.
Voilà, tu reviens obligatoire.
Ouais.
Exactement. Je présente bénévole coquère, compatriote bénévole à la TIRS.
Ouais.
Il vient aussi nous aider à préparer pour les personnes qui sont dans la rue, à boire le café, à manger, à se laver, à donner des serviettes. À les écouter, parler avec eux. Et je vous laisse avec eux.
Ouais.
Avec mon sang, avec le sang.
Très bien.
C'est le sang, les pas.
Merci beaucoup d'avoir répondu à la question.
Toi, quel
plaisir. Barakallahu fik.
Alors,
bonjour. François,
bonjour.
Aujourd'hui, c'est quoi? C'est la fête?
C'est un moment de détente.
Voilà, un moment de détente. Mais c'est la première fois que vous organisez ça en dehors du travail. C'est la première fois que je vois ça dans.
Sur les
escaliers.
Oui. En fait, je crois que c'est un thème qui a été choisi par les missions civiques de la cloche, donc notamment Abeline, etc. Pauline, donc les travailleurs, etc. de la cloche. C'est un thème qui a été choisi un peu pour mettre, pour expliquer que les
bah,
que,
en valeur,
que nous, voilà, que nous, les personnes de la rue, parce que malheureusement, il y en a de plus en plus. Sont aussi importantes que des stars, que des personnes qui passent à la télé ou autre, et créer un, aussi un peu un système de cohérence, donc ça veut dire que les personnes suivent. Ouais. Bah, c'est le cas à Marseille d'ailleurs, où les, beaucoup d'assos sont en relation.
Je vois que tout le monde se connaît, c'est qu'il y a un beau travail quand même.
Oui.
Ouais. Et vous avez fait un travail de fond.
Travail d'équipe, en fait, c'est, voilà.
Mais vous, comment vous avez connu? Est-ce que vous étiez SDN? Parce que, excusez-moi de vous poser la question.
Je vous en prie, ouais. Malheureusement, oui. Comme beaucoup de personnes, parce que comme je ne suis pas d'ici.
Vous êtes de quel...
Je viens d'un pays à côté de la France, donc la Belgique.
Le Nord, quoi.
Voilà, le Nord, oui.
C'est les ch'tis, non ?
Ouais, c'est les ch'tis bandits, quoi, voilà.
J'aime beaucoup donc, les ch'tis,
là. Ouais, mais je vous en prie, moi, moi j'aime... j'ai pas de... J'ai jamais vraiment eu de drapeau, moi, j'ai pas de frontières. Donc...
ça, c'est important.
Et c'est pour ça que je me sens d'ailleurs et que je reste là, malgré les difficultés de logement. Bah, je reste là à Marseille parce que j'avais dans la dans un rêve minot entre guillemets quand j'étais plus jeune, bah, j'avais dans le rêve ouais, de, je répète d'aller en Afrique, enfin voilà, de pouvoir voyager. Parce que je me sens voilà, je me sens vraiment sans frontières et que donc du coup voilà bref, je suis arrivé à Marseille et bah, je suis arrivé en plus avant la période Covid et puis bah, je travaillais dans un EHPAD, etc. Je travaillais comme gardien d'immeuble. Je travaillais comme animateur dans les quartiers nord avec le paysan urbain, où on allait faire des potagers, etc. avec les enfants des quartiers, des écoles, avec des CHRS, donc des foyers. Et voilà, et comme j'ai eu une blessure, etc., ben j'ai perdu mon emploi. Et puis là, ben, comme je suis quand même quelqu'un qui suis assez, on va dire, social, je vais, voilà, j'ai eu un souci, je me suis fait agresser, donc j'ai perdu, je ne peux plus vraiment travailler comme avant, donc je ne peux plus, ben voilà, je dois faire attention. Donc. Et voilà, j'ai atterri à la cloche comme ça, et à un autre monde. Et voilà, je répète, moi je reste à Marseille pour le fait que ça soit vraiment cosmopolite, et qu'au final, ben, moi qui voulais, je répète, voyager aussi, ben, je peux rester à Marseille. C'est-à-dire que je voyage sans bouger.
Et ça ne vous manque pas le Nord ?
Ah, j'y repasse parce que je vais voir ma fille, qui est une grande fille. Donc j'y repasse, ça me manque. Oui, ça me manque. Maintenant, Marseille reste quand même ma ville préférée. Bon, maintenant, Bruxelles me manque aussi, mais...
C'est à cause de quoi Marseille vous attire ?
Mais à cause, au départ, c'était un rêve de gamin, parce que j'ai des origines d'ici, de mes arrière-grands-parents. Et puis, bah, c'était aussi pour la musique. J'étais venu parce que voilà, j'écris depuis l'âge, enfin très jeune, depuis 7-8 ans. J'étais venu pour le hip-hop. Pour le hip-hop, pour le
petit monde à
voilà,
IAM, l'ancêtre du hip-hop marseillais.
Ouais, IAM, Soprano, toute la clique, donc RODK. Ben, d'ailleurs, c'est pour ça aussi que j'ai fait le tour de la France, parce que j'étais dans quelques concerts. Pas moi qui les ai fait, donc j'ai demi-portion, enfin etc. à 7. Et je répète, donc je suis venu pour la musique. Et en même temps, ben, par la musique ou par d'autres biais, ben, je compte créer mon association, donc plus pour aider les enfants, etc., des foyers, et j'aimerais, qui est déjà créé dans des grandes villes, m'associer avec une association qui s'appelle Les Disparus Anonymes, donc qui avait été créée à Paris pour rechercher les enfants disparus ou des personnes disparues, tout court. Et voilà, donc ça me tient à cœur et c'est pour ça que je vais passer les prochains mois à me retaper la santé et voilà, pour être plus actif encore sur dans mes ambitions, donc sur le terrain.
Et voilà. À Marseille, ça manque pas ça, c'est le mélange, on a l'Afrique, on a le Maghreb, on a le rail, on a
c'est ça.
Tout.
Ouais, c'est ça, on a tout.
On a beaucoup de choses ici.
Oui, comme...
Beaucoup qui critiquent Marseille, mais bon, on voit le côté noir, mais on voit pas le côté... j'allais vous dire star, mais il n'y a pas de star, parce que j'ai vu l'escalier rouge. C'est symbolique, ça.
Oui, mais attends, regardez, quand on... Oui,
c'est vraiment... Le tapis rouge, plutôt.
Oui, c'est symbolique, justement, parce que comme le tapis rouge, c'est connu mondialement. Donc au final, oui, les gens, comme vous dites, on a beaucoup tapé, on tape sur Marseille, on tape sur Marseille. Maintenant, il y a des difficultés ici, comme vous avez dans d'autres villes, comme vous avez dans mon pays, comme vous avez de plus en plus, mais dans le monde entier, quand, voilà. Et Marseille, comme vous dites, c'est vraiment la ville, une des villes les plus cosmopolites. Donc il y a aussi des gens d'Amérique du Sud, il y a des gens, parce que voilà, il y a beaucoup de réfugiés. Et une anecdote, que j'étais minot, enfin quand j'avais 20 ans, j'avais organisé un... 21 ans, pardon, j'avais en 2002. J'avais créé un festival, entre guillemets, chez moi, donc une soirée cosmopolite. Et parce que j'ai grandi à Bruxelles, parce que j'ai toujours grandi avec des personnes, avec des Africains, en soi, donc maghrébins, africains, etc. Et j'ai toujours aimé avoir un contact avec des personnes étrangères. J'étais dans des villages... Je me suis bien intégré aussi, mais j'adore Marseille pour ce fait justement que ça soit cosmopolite. Et comme vous dites, on en apprend. D'ailleurs, vous parliez de rail, de mes 17 ans et demi, j'ai souvent écouté du rail. J'habitais Bruxelles et ça permettait de m'évader. Et voilà, maintenant, moi je sais que j'ai des origines de Maupaper, comme tout le monde, on a tous des origines de partout, heureusement et malheureusement, pour, dans certaines causes. Mais ce que je veux dire, ouais, le rail, ça m'a... c'est une musique qui m'a apaisé suite au décès de mon petit frère, c'est une musique qui m'a bien aidé on va dire, à me poser et à me sentir bien, et qui m'aidait aussi à écrire. Si, parce que vous êtes à la Friche.
Oui.
Et nous, comme je suis colporteur pour Notre Monde, et puis je vous connaissais justement via le hip-hop aussi. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font de Paul Maille, donc qui font du hip-hop dans Marseille, et qui vont chez vous. Et d'ailleurs, j'ai passé la soirée chez vous. Oh là là, vous aviez fait une soirée avec DJ, etc. Et comme moi, je travaillais à l'open air, au toit, après, je suis descendu à la soirée près de vous. Et d'ailleurs, oui, j'aime bien. Nous en Belgique on a des radios comme vous, mais je trouve que j'aime bien voilà, les radios comme ici, où ça devient de plus en plus compliqué. Voilà, et ce que j'aime bien justement avec Marseille, c'est que les radios sont fort indépendantes.
Mais malheureusement il n'y a pas beaucoup de radios indépendantes, et il reste une ou deux associatives militantes comme Radio Galère.
C'est bien d'ailleurs, quand là j'ai plus de voiture depuis un certain temps, mais quand j'avais ma voiture, je vous écoutais souvent. Parce qu'il y a souvent des je répète, du hip-hop chez vous, il y a la musique du monde aussi.
Il n'y a pas que l'hip-hop, il y a des reportages,
voilà.
Des documentaires.
C'est ça, et je trouve que c'est bien comme. Moi personnellement, voilà, j'essaie de m'intéresser parce que je suis sur le terrain, dans la ville. Maintenant, je trouve que c'est bien de m'informer les personnes, et d'ailleurs, je souhaite d'avoir le plus d'auditeurs possible. Que les gens arrêtent d'écouter BFM TV et qu'ils écoutent Radio Galère.
Voilà. Mais merci, rappelez-moi votre prénom, François.
François, pour les anciens Marseillais, c'est Choua. Et chez moi, en Wallonie, on dit Chanke.
Ok, merci beaucoup.
Au plaisir, merci à vous.
Merci.
Vous êtes rayonnant, monsieur.
Merci.
Et ça fait plaisir.
Bonjour.
Bonjour, ça va et vous,
Bonjour. Moi, je suis... Tiens, ça te... oh, il fait rien, je suis venu sûrement pour un événement.
Ah ouais?
Oui.
Alors?
Ça me fait plaisir de vous voir.
Là, le micro, c'est pour vous.
Hein. Oui, ça me fait plaisir de vous voir et de passer un bon moment avec vous,
ouais.
Tranquillement. Parce que c'est toujours la cloche, et je suis très heureux de participer effectivement à tout ce qui va se passer comme événement. Merci de m'avoir interviewé.
C'est tout ce que je peux vous donner. Le micro. Madame, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors,
merci beaucoup. C'est magnifique d'avoir organisé cette rencontre. Vous faites partie d'un journal
Non, de Radio Galère.
Radio Galère.
Radio Galère.
Radio Galère.
Ouais.
Alors nous, on est dans un accueil du Secours catholique.
Très bien.
Qui est entre la gare Saint-Charles et la Joliette.
Ouais.
Et chaque jour, on est heureux de donner aux personnes la possibilité de boire un café, de s'asseoir, de discuter, d'aller prendre une douche. Voilà. C'est une joie de passer du temps avec eux et de les accueillir dignement.
De faire du bonheur pour eux un moment de
partager.
Bonheur.
Partager, exactement. Exactement.
C'est très important ce que vous faites, madame. Mais vous, monsieur ?
Oui. Oui, on est là avec nous, les gars.
Bénévoles.
Là.
Bénévoles.
Ils sont trop bons.
Ils sont
bienvenus avec nous.
Bien sûr.
Oui, on prend des douces avec l'or, on boit le café, on discute ensemble, on fait beaucoup de choses ensemble. On est très contents.
Bien.
On est venu participer avec le gars là, on fait le truc ensemble.
Et vous faites quoi dans la vie comme ça? Qu'est-ce que
bon,
vous faites?
On travaille un petit à petit, mais sans papier, c'est mal payé. Bon, c'est ça en fait. Comme tu connais,
ouais.
Voilà, la ville, on va débrouiller comme ça, un petit à petit, c'est
mais
ça.
Vous êtes originaire de quel pays?
Nous sommes Gambiens.
Gambie. Il y a la Zambie,
ouais.
Et la Gambie.
Il y a la Gambie, il y a la Gambie.
Ouais.
Ah oui. Ouais.
Alors vous suivez
merci
la Coupe d'Afrique?
Ouais, on est content avec vous.
La Coupe d'Afrique?
Trop merci avec beaucoup d'Afrique, oui, on va rencontrer.
Ah.
Ouais, on va jouer cette année. Ah oui.
Exactement.
Ouais, c'est ça, c'est bon, c'est la vie.
Okay.
C'est un maintenant j'ai manqué là.
Très bien.
Ah oui.
Bien.
Ouais.
Bonjour.
Merci
de
vous aussi.
Beaucoup.
Merci.
Comment vas-tu?
Tu vas bien toi?
Il y a longtemps qu'on ne s'est pas vu.
Ben ouais.
Aujourd'hui on se voit ici.
Et ouais.
Qu'est-ce que vous faites là aujourd'hui?
Ben moi je viens sonoriser avec mon père.
Ah ok. Très bien. J'avais fait une formation Radio Galère.
Eh oui. On s'était vu là-bas. Tu sais que j'ai même encore ton numéro de téléphone.
Bien sûr, tu peux m'appeler. Hein. Voilà, t'as déjà participé avec moi là.
Oui, j'étais venu t'aider à la technique.
Exactement. Et comment tu trouves Radio Galère?
Bah toujours comme pareil.
Magnifique.
Hein. C'est toujours pareil.
C'est un régal.
Ça fait toujours plaisir de passer.
Ouais.
Ça fait toujours plaisir de passer. Et puis là, bah, du coup, on est venu pour sonoriser et on est même venu aussi brancher l'électricité pour Radio Galère.
Très bien. On reste ensemble comme ça.
C'est ça.
Bah merci. Hein. Et il est où votre papa là?
Mon père, il est juste là. Là, avec le pull.
Ouais, ok. Bah écoute, bon courage. Hein.
Merci. Et toi aussi.
catholique de l'accueil de jour Béthalie. On les applaudit bien fort.
Ça va pas.
Bonjour. C'est votre fils?
Ouais.
Il a fait participer un peu avec moi à Radio Galère.
Oui, je sais, je connais.
Ah, ouais, 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 ouais.
Il m'a dit.
Vous êtes là pour installer les trucs?
Ah, nous, on est là pour sonoriser les lieux.
Ah ouais, okay.
Voilà, on est venu.
Dans la technique, quoi.
Voilà, dans la technique, on vient sonoriser.
Je change pas de bord. Hein.
Vous êtes des techniciens.
Voilà, technicien, DJ. Voilà. Tout, on fait...
Il y a le père et le fils.
Le père et le fils. Voilà.
C'est ça.
Le père va bientôt arrêter, création, et le fils va prendre la relève.
Création 1901, père et fils.
Voilà, c'est ça.
Merci beaucoup.
De rien.
Je t'en prie, Kamar. Avec plaisir.
Vous prenez les photos.
Ouais.
Mais vous,
je travaille pour la cloche.
Ah oui, comment ouais. La cloche. Ça ouais. Va, alors.
Ouais, oui, ça
vous
va.
Trouvez la cloche, là.
Comment
vous trouvez la cloche?
Et moi, je découvre en fait un peu la cloche. Ça fait pas longtemps que je suis ici. J'ai rencontré une amie qui m'a parlé de la cloche.
Mais
et qui...
Vous êtes de quelle région?
Je suis de la région parisienne.
Ah oui, bah oui.
Comment vous vous sentez?
J'arrivais hier et j'ai quitté Paris là. Alors, ça va? Ça vous plaît Marseille?
Ouais, beaucoup. Énorme. C'est pour ça que je suis là. Je connaissais déjà. C'est très bien. J'adore. Ouais. J'adore.
Vous êtes photographe.
Photographe, voilà. Photographe et traducteur aussi, ouais.
Très bien, très bien. Je vous laisse travailler parce que je sais que vous allez rater non, les scènes.
Un truc là, j'ai dit.
C'est votre moment, si quelqu'un a envie de monter les marches, c'est possible. Profitez une occasion qui se présentera peut-être rarement dans votre vie.
Pas de problème.
Bonjour Kamar, ça va bien?
Ça va bien?
Bonjour.
C'est quelle association?
Le Jeune Sentinelle Égalité.
Des membres de l'équipe.
Ah bah ici.
Je suis stagiaire pour le stage à notre monde.
La cloche? Transformation, voilà.
Je suis à l'IRTS, à l'Institut des travailleurs sociaux régional. Et du coup, dans le cadre de Un autre monde, on fait des questionnaires pour une enquête sur l'impact social et culturel en tant que futur éducateur spécialisé.
Vous aimez ce métier?
Oui, c'est ma vocation. J'aime beaucoup le métier dans le social et surtout éducateur spécialisé. Il faut savoir aider les gens avec les propres moyens. Rien qu'avec une association, on peut tout faire. Hein.
C'est ça. Ben, je vous laisse faire le sondage. Je m'excuse parce que
merci.
Il faut qu'il perde du sang. Hein?
Ah, d'accord.
Ben oui, c'est Radio Galère, hein? Vous la connaissez?
Ah non, je connais pas.
Radio Galère est stationnée à la Friche, la Belle de Mai, et on est là en direct.
Ah oui, c'est ceux qui sont montés, qui ont monté les marches, c'est ça?
Oui. Ils veulent pas parler, ils sont contents.
Marianne, elle peut parler.
Non, je parle pas, non.
C'est Radio Galère.
Attends, c'est Radio Galère.
Mais je vous connais pas.
C'est pas. Ah bon?
J'ai pas dit mon nom tout à l'heure. J'ai des amis qui travaillent à Radio Galère. Non, Radio Galère, c'est pas Radio Grenouille.
Moi, je fais partie du Secours catholique. Je suis bénévole à l'accueil de jour Béthanie et je donne des cours de français pour des gens qui viennent d'arriver en France et qui ne parlent pas encore le français. Voilà. Mais là, donc on est quelques-uns avec les gens qu'on accueille au quotidien, trois fois par semaine.
C'est important d'apprendre le français quand même.
C'est important.
C'est un butin de guerre. Hein.
C'est un butin de guerre et puis surtout c'est vraiment indispensable pour espérer un jour avoir des papiers, si Dieu veut, et la préfecture aussi.
Justement,
ouais.
Justement, on a un ministre qui plus que facho, ça nous fait rappeler Pétain, ça nous fait rappeler...
Qui est mené en ce moment, effectivement...
Bah, la politique des fachos, reconnaissons-le.
N'est pas la plus tolérante. Voilà, n'est pas la plus tolérante. On va dire ça comme ça.
Ouais.
Voilà. Donc voilà.
Ah, je ne peux pas vous poser des questions parce que vous n'étiez pas né.
Non, j'étais pas né. Non, je plaisante.
Ouais, je sais. On est là pour rigoler un peu quand même.
Exactement.
Et donner la parole aux sans-voix.
Et là, c'est un bon événement qui permet de mettre la visibilité de façon joyeuse sur les gens qui vivent dans la précarité. Voilà.
Il y a beaucoup de précarité quand même.
Ouais. Beaucoup. Mais il y a beaucoup d'entraide aussi. Nous, on ne peut pas faire grand-chose contre les addictions, mais en revanche, on peut accueillir les gens, un café, un gâteau, un sourire, une conversation, et voilà.
De toute façon, c'est important ce que vous faites. Hein.
Mais bien sûr que c'est important.
Quoi?
Ça, c'est quoi?
Ça, c'est un micro. C'est pas un lapin.
Pourquoi?
Pour parler.
C'est pour parler?
Ouais. Alors?
Un truc.
Tu veux parler?
Oui.
Allez.
Ben merci, hein. Merci beaucoup.
Avec plaisir. Merci. À une prochaine.
Ouais.
Sur les routes de la galère.
Moi, je suis toujours dehors avec mon micro.
Ah, hein. Bah, super.
C'est Radio Galère. Vous connaissez?
Ah oui, la galère, je connais, ouais. Ah,
ben oui. Eh ben, c'est Radio Galère.
Ça enregistre, là?
Oui, oui, oui.
Alors, si tu veux que je parle, qu'est-ce que je fais là? Je viens en solidarité avec les gens qui sont à la rue et tout ça. Moi, je suis bénévole de La Cloche.
Ah bah vous êtes en force aujourd'hui là.
On est en force, c'est ça, donc voilà, on est là, et j'ai passé un bon moment, il y avait beaucoup de gens, voilà, la météo, tout à l'heure il faisait beau, maintenant il fait gris, c'est le temps de Paris, et ce soir Paris joue contre Chelsea, et voilà, et même si on est Marseillais, que je porte une veste de Marseille, que je supporte l'OM, ce soir on est avec Paris, parce qu'il nous, représente à l'échelle nationale.
International.
Et international. Eh oui, merci, merci.
Et à part ça, à part le foot, vous aimez l'OM, quoi?
Bien sûr, j'aime l'OM.
Ils ont eu deux recrues terribles.
Ah, Amine Gouiri. Parce que toi, t'es algérien, t'es kabyle.
Comment vous l'avez
moi reconnu? Tizi Ouzou.
En plus.
En plus, t'as vu? Ah, j'ai du nif.
Ah bah oui. Hein.
Parce que moi, je suis le cousin de l'autre côté du Maroc. Non, Mghreb.
Eh ben on est des
frères,
on est de la famille.
Oui. Je meurs pour toi et tu meurs pour
exactement,
moi.
Exactement.
Inch'Allah.
On est un seul peuple.
Bien sûr. Divisé en plusieurs tribus.
Il n'y a pas de division.
Carrément.
Ah, direct.
Direct.
Comment on dit direct?
Moi j'aime bien les gens de Tizi Ouzou. On peut parler de tout, n'importe quoi.
Ah bah oui.
Oui.
Vous êtes là, le micro est à vous.
Oui, oui.
Et le Maroc, parle-nous un peu du Maroc. Ah bah voilà.
Ah, vive le Maroc. Qu'est-ce que c'est le Maroc,
le
Maroc?
On parle du foot, du sport, on parle quoi?
On parle de tout. Après, oui, si j'ai un sujet à parler quand même, qui est important. C'est que il y a des problèmes entre la gouvernance marocaine, le roi du Maroc et le président algérien. Et moi, je voudrais interpeller les gens sur ça pour dire que franchement, il faut la politique, il faut laisser ça de côté.
Faut pas entrer dans
ouais,
le.
Non, voilà.
Qui se débrouille.
Qui se débrouille, parce que nous, on est ensemble et on a toujours été ensemble et on est des frères. Voilà, que ce soit le Maroc ou l'Algérie, le peuple marocain ou algérien, leurs origines c'est la berbérité, voilà. Et c'est pas voilà, il faut arrêter de...
Ça, c'est, il faut pas suivre les réseaux. Il y a beaucoup de réseaux
oui, voilà.
Qui disent n'importe quoi.
Oui.
Il faut pas trop voir les réseaux. Moi, quand je vois dans les réseaux, je regarde que le sport.
D'accord.
Je regarde pas ce qu'ils disent. Un tel pays, l'autre, ils disent, c'est des mouches, on les appelle.
Oui.
De Banat.
De Banat. Et franchement, c'est vrai ce que vous dites, c'est uniquement dans les réseaux, parce que exactement. Moi, je vois les gens dans la rue ici à Marseille, et je remercie le peuple algérien en général, marocain, parce que franchement, ici, ils font pas de différence. Moi, quand je parle des Algériens, ils disent, non, mais ça, c'est la politique, c'est autre chose. Et franchement, le monde y va très mal. On n'a pas besoin de rajouter de la misère, de la division. Au contraire, on doit s'unir et on doit essayer de construire un monde meilleur. C'est pour ça que moi, je suis bénévole à La Cloche. C'est pour parce que eux, ils luttent pour l'inclusivité des gens qui sont à la rue, tout ça. Et voilà, faut pas faire de différence. La vie, elle est trop courte. Il faut se donner le meilleur de soi-même.
Voilà. Ben écoute, c'est très important ce que vous avez dit, surtout sur les deux peuples. Il faut enlever les frontières.
Il faut enlever les frontières, bien sûr. Avant, il n'y avait pas de frontières à part les rivières et les montagnes. Voilà. Et voilà,
nous sommes tous... À l'époque, nos ancêtres, ils se déplaçaient avec des ânes.
C'est ça.
Avec des voitures.
C'est ça.
Pour revenir à l'ancien temps. Pourquoi il y a beaucoup de mariages mixtes?
À Marnia, ils parlent marocain, à Marnia.
Bien sûr. Bah, Lorani, ils parlent un petit peu le marocain, attention.
C'est vrai?
L'Ouest.
C'est l'Ouest.
Ah ouais.
C'est un grand pays, c'est qu'un pays sur deux.
Exactement.
Sur un grand pays.
Un jour, on va se voir tous les deux.
Inch'Allah.
On va faire la fête et au Maroc et en Algérie.
Marhaba, avec plaisir.
Allez,
merci. Mouslam alayhi hafdak.
Vous êtes photographe?
Non, je ne suis pas photographe. Je regarde ce qui se passe.
Ah oui, vous êtes un passant.
Oui, je suis un passant. Qu'est-ce qui se passe là?
Non, ici c'est. Putain, le tapis rouge.
Ah ouais, j'ai capté, ouais.
Et ils mettent les pauvres, les SDF, les sans-abri.
Ils les mettent bien.
Leur donnent les vêtements pour montrer que même vous pouvez.
Fisabilillah, ouais.
Voilà. Comme on dit, Fisabilillah. Vous êtes algérien ou marocain?
Je suis marocain, moi.
Ben aujourd'hui, il y a beaucoup de marocains.
Mais j'ai pas appris. Moi, je suis d'origine marocaine, mais je suis né en Corse.
Corsaou. Quand tu fais un Marocain en Corse,
Salam. Salam,
ciao.
Elle est bien, parce qu'on va aussi.
Tu vas toi, Annie ? Ouais, ouais, allez. Je suis qui ?
Vous regardez en prenant photo. C'est une équipe de costauds, mais ils sont très forts.
Ouais, l'équipe de choc.
L'équipe de choc.
Est-ce que vous voulez dire un petit mot peut-être bientôt à la fin de l'événement?
Je profite de ce petit instant pour remercier justement cette équipe de choc qui m'a aidé à monter l'événement. Quand je pense à l'équipe de choc, je pense à l'équipe salariée, volontaire, tous les bénévoles, les partenaires qui ont rendu cet événement incroyable. Je crois qu'on est tous d'accord pour dire que c'était une très belle première édition, en espérant que l'année prochaine on fasse encore mieux. Je l'annonce direct. Donc voilà, on va devoir le refaire l'année prochaine. Mais voilà, encore un grand grand merci à tous et toutes. On vous invite à venir chez Toili, notre commerçant solidaire qui est juste là-bas, 57 rue Bernard Dubois, avec un très beau cocktail, parce que vous imaginez bien qu'après toute cette montée des escaliers, toutes ces prises de parole, on a soif et on a faim. Donc un très beau cocktail et surtout un super concert de la chorale Tous Égaux. Donc venez continuer, on continue la soirée tous ensemble. Il y aura peut-être quelques surprises. Ne regardez pas mon regard, mais peut-être que quelqu'un va nous faire un petit spectacle surprise.
Merci beaucoup, Pauline. Et il y a encore Jade et Robert et Geneviève et j'ai oublié le prénom Sophia, c'est ça, non ? Qui montent les marches sous vos applaudissements. Tonton Robert, un mot, je crois que vous êtes très, très demandé, il faut dire un petit mot.
Tonton Robert, oui, je sais pas. Et ben, merci, je remercie la cloche comme tout le monde. Et merci Jade. Mais oui, merci Jade, parce que ça a commencé, pourquoi je ne sais pas, mais merci Jade quand même. Et merci la cloche.
Merci à tous et à toutes. Venez à toi, dis, ça va être génial.
Et attention, la surprise, je pense, va être une très belle surprise. Une superstar présente sur le tapis, maintenant.
Vous l'avez compris, il faut aller à Toili. On vous l'a bien dit, c'est juste là derrière. C'est vraiment pas loin et ça va être un très bon moment. Eh bien, c'est maintenant qu'on va chez Toili. Donc, dites adieu à ce sublime tapis rouge. Merci beaucoup pour votre attention et votre présence. Et on se retrouve... Ah non, il y a encore nos tout dernières stars qui vont monter le tapis rouge du service civique. On les applaudit. Du service civique de Unicité.
Bonsoir tout le monde, mais vraiment c'est un plaisir de participer à cet événement. Vraiment, je tiens à dire que Unicité, c'est génial. Et merci beaucoup pour tout et vive Unicité.
Merci beaucoup.
Eh oui, pensez pour Marley, Bob Marley and the Wailers. When a Survivor sur Radio Galère avec l'émission Haraga. I tell you what, some people got everything. Some people got nothing. Some people got hopes and dreams. Some people got ways and means. Na 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 na. We're the survivors. Yes, the
survivors, like Daniel out of the lion's den. Survivors, survivors, so I dream, I say string. Oh, which way will we choose? We better hurry, oh hurry, oh hurry, oh now, cause we've got no time to lose. Some people got facts and claims, some people got pride and shame. Some people got the flops and the scheme. Some people got no aim, it seems. We're the survivors. Yes, the black survivors.
C'était la montée des marches. Bien sûr, présenté par la cloche sud. Premier mai à Avranches.
Time has come. Some people put the best outside. Some people keep the best inside. Some people can't stand up.
Et après, pour terminer l'émission, c'est Willy qui va vous parler.
We're the survivors in this age of technological humanity. Scientific atrocity. Atomic miss philosophy. Nuclear miss energy. It's a world that forces lifelong insecurity. Together now. Na, 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 na. We're the survivors. Yeah, we're the survivors. Yes, the black survivors. We're the survivors.
Bonjour.
Ouais, bonjour.
Alors, aujourd'hui, de quoi on va parler? Puisque toi, tu représentes tous ces gens qui vivent dehors, tous ceux qui sont à l'hôpital, et tu as accepté de témoigner, de parler à cœur ouvert. Alors, raconte-moi.
C'est pas évident de démarrer un sujet là-dessus. La folie. Quand je vois... ça peut toucher tout le monde. Tu sais, ça fait 3-4 ans que je vis dans la rue, et quand je vois des gens parler tout seuls, les gens se moquent, ils regardent avec dédain, et ça me touche beaucoup. Mais ce que j'aime aussi, c'est la religion, les compagnons d'Emmaüs. Ça, c'est fabuleux, le boulot. Tu sais qu'ils sont testés, ils m'ont raconté. Ils font les déménagements pour voir s'ils volent pas. Ils sont testés, quoi. Ils sont testés pour voir s'ils volent rien. Je sais pas quoi te dire. La folie, c'est... Ça m'a touché. J'ai vécu l'hôpital psychiatrique. Et ça... C'était dur. Mais que dire? Voilà quoi. J'étais bipolaire, maniaco-dépressif, on appelait ça. Maintenant on appelle ça bipolaire. Alors c'est à la mode, tout le monde est bipolaire. En fait, c'est pas évident quoi.
Là, je vous ai donné la parole parce que ça fait presque une semaine dans les radios, France Culture, d'autres radios. Ouais, on vous voit. C'est question d'éducation. Donc, il parle de la folie. Il donne la parole au psychiatre qui parle des fous. Il parle à leur place. Mais on n'entend pas les patients comme vous qui parlaient. Est-ce que vous acceptez... Il parle à la place des patients, des fous. Tu trouves ça normal? On ne donne pas la parole au... Là, tu es là, tu parles bien. Tu es en train de communiquer avec moi.
Oui, mais tout le monde me parle à la place de tout le monde. C'est fou. Il y a pas évident de parler de ça. ça me touche beaucoup. J'étais bipolaire pendant 15-20 ans, tu vois. Je dormais 17 heures et puis d'un coup, je faisais des nuits blanches. C'est là que j'étais créatif. Et quand je montais trop haut, je pétais les boulons total. Moi, ce qui me fait de la peine, c'est quand on se moque. Quand on se moque de quelqu'un qui parle tout seul. Je le regarde, c'est stop. Oh, t'es en train de parler tout seul. Voilà.
Et comment on guérit ces patients? Est-ce que... Qu'est-ce qu'ils leur font? Qu'est-ce qu'ils leur donnent dans les hôpitaux? Toi, tu as une expérience quand même.
Oui, j'ai une expérience de maniaco-dépressive, bipolaire. Ça m'a duré 20 ans. Il y a des traitements, il y a des progrès de la médecine. Il y a beaucoup de progrès. Mais il faut prendre son traitement.
Est-ce que tu...
Après, il y a des signes. Par exemple, moi, quand ça me vient l'angoisse, je prends un Exomil. Voilà. Un Exomil, faut pas avoir peur de le prendre. Il y en a, c'est le Célesta. Il y en a qui ont besoin pour dormir. Ils mettent 20 minutes à s'endormir, voilà.
Parce que moi, ce que j'ai remarqué, je suis tout le temps dehors. La preuve, je suis tout le temps avec mon micro, je fais des micro-trottoirs. Je vois beaucoup de malades, je m'excuse le terme, qui parlent tout seuls, c'est plein à Marseille. Et on dirait qu'ils sont laissés à l'abandon.
Mais tout le monde s'en bat un peu les couilles de tout le monde maintenant. Tu vois quoi te dire. Ça peut arriver à tout le monde. Il y a 6-7 ans, c'était vraiment... C'est rentré dans les mœurs. Ça touche tout le monde, la folie. Et quand on voit un fou, le travail qu'il vient de nous faire au réformé où on se trouve, à 7h30 du matin, il nous donne le petit déjeuner, les deux compagnons. Je les appelle les compagnons de la chanson, je me moque la gueule. Et il y a toujours... Tu sais, on est dans le vortex ici. Et c'est vraiment... Il y a un super court-métrage. Ouais, je me moque de ma gueule italienne. Je commence parce que je ne savais pas ce que c'était le vortex. On est vraiment dans le centre de Marseille.
Alors, tu m'as parlé d'un voyage que tu n'as jamais oublié. Tu as fait un voyage de 2 mois. Tu as fait un voyage de 2 mois. En Irlande, si je me trouve. Comment ça s'est passé? Racontez-moi là.
Alors là, on était 3 copains.
En quelle année?
Non, c'était en 90-91. J'ai 56 ans, je suis né en 69. Anéotique. Et c'était fabuleux. On avait créé une chanson, on avait des vélos avec des sacoches, et on a passé un mois à faire tout le sud, toute la côte, Misenland, Ring of Kerry, Doolin, les îles d'Aran, Aran Island, et je ne savais pas parler anglais, tu sais. Et on arrivait, et pourquoi ils aiment tant les Français? Tu t'es déjà posé la question? Parce que Napoléon a aidé contre Cromwell. Et oui.
Ouais.
Et oui.
Il y a toute une histoire alors.
Il y a toute une histoire. Cromwell a envahi l'Irlande, mais nous, la boule va arriver. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y a toute une histoire. Et quand on rentrait dans les pubs, je jouais de la flûte traversière, et eux, ils se levaient, ils disaient « Alouette, gentil, Alouette ». Ils connaissaient que Alouette.
Alors, tu m'avais parlé du dol. C'est quoi? Expliquez-nous.
Alors, c'est un proverbe breton. Alors, c'est très beau, la Bretagne, c'est celtique aussi. C'est le dol dans sa folie, a mis le mont en Normandie. Le dol dans sa folie a mis le mont en Normandie. Voilà, c'est beau. En fait, c'est une sorte de fleuve qui, avec la marée, et qui traverse Mais parle-nous du Mont Saint-Michel.
Oui, oui, oui. Parce que je viens de justement, j'ai
passé. Approche le micro, toi.
Oui, vas-y.
C'est beau, le Mont Saint-Michel. C'est magnifique. T'es allé combien de temps là-bas?
Un mois quand même.
C'est beau, la pauvreté franciscaine. Hein, l'humilité, c'est beau.
Tu sais, quand tu vas là-bas, tu te reposes. Hein. Tu cherches pas à comprendre. Tu vois un autre monde.
C'est beau, hein.
Voilà. Je peux pas te décrire le Mont Saint-Michel. Parce que je suis pas allé en touriste, je suis allé pour me reposer.
Qu'est-ce que tu fais? Voilà, c'est pas évident de parler de la folie comme ça.
Voilà, l'émission tire à sa fin, il est 5h50 sur les ondes de Radio Galère. On va terminer avec une chanson des Bee Gees, hein, juste après, parce que c'est Willy qui l'a demandé. Donc, on a choisi une chanson des Bee Gees. Hagda, Audoulo, Tmaninat, les années 80. Hein. Donc, sur les ondes de Radio Galère, je vous ai dit, il est 5h50. Et il ne me reste qu'à vous dire au revoir et à jeudi prochain. Hagda, jeudi prochain, à quelle heure? On va voir, à partir de 16h avec la compagnie des Haraga. Allez, on attaque les Bee Gees. Non? Ça va venir? Non, ça va venir. Allez, c'est bon. Ciao. Ciao, ciao. Eh oui, la belle époque, la belle époque.